Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Place aux Jeunes, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui façonnent déjà la société de demain. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet de tendance, la cuisine durable. Pour en parler, nous accueillons Emma, étudiante et passionnée par une alimentation plus responsable. Bonjour Emma.
Bonjour à tous.
Commençons par la base. Emma, le terme est à la mode, mais concrètement, qu'est-ce que la cuisine durable et quels sont ses grands piliers, voire objectifs ?
Alors, c'est marrant déjà que tu utilises le terme tendance et à la mode, parce que pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Une tendance, c'est quelque chose qui émerge et qui va plutôt partir dans l'année. Alors que la durabilité, pour moi, ça s'inscrit justement dans le temps. Et donc le terme durable, il faut savoir qu'il a été matérialisé et défini durant la Commission mondiale sur l'environnement, donc en 1987. Et suite au rapport de Brundtland, donc ils ont défini trois piliers, environnemental, social et économique. Et il s'agit vraiment de faire perdurer donc les trois piliers en même temps. Donc typiquement dans le cadre de la cuisine, pour le côté social, on peut parler des conditions des salariés, mais aussi des producteurs donc, qui fournissent les matières premières. Côté environnemental, on peut parler de la réduction des déchets, on peut parler du bio, de tous les labels qui peuvent exister. Et côté économique, que l'activité soit rentable, c'est aussi toujours le nerf de la guerre quand on a une entreprise. Et pérenniser par exemple les approvisionnements, avoir différents sourceurs pour pouvoir pérenniser l'activité.
Ok, donc c'est vraiment un global, c'est un mode de vie carrément.
Oui, enfin pour moi, c'est ça.
Et dans la cuisine durable, du coup, on utilise des aliments. Quels peuvent être ces aliments durables ?
Alors, cette question, elle est intéressante pour moi. Tous les aliments, il n'existe pas un aliment qui peut être plus durable qu'un autre. Une mangue, par exemple, qu'on va manger dans le pays où elle est produite. Ça n'a rien à voir avec manger une mangue qui a été importée en avion ou en bateau en France. Et donc, tout est vraiment dans la façon de réaliser, que ce soit l'aliment ou le produit final. Donc, la manière dont il a été cultivé, ensuite transformé, dans quoi il est emballé, par qui il est utilisé. Pour moi, c'est vraiment plus général. Et on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un aliment plus durable qu'un autre. Et moi qui suis plus dans la pâtisserie, par exemple, on peut se dire en France que les ingrédients comme la vanille, le cacao qui viennent de loin sont moins durables, mais ça dépend encore, est-ce qu'on le prend bio ou pas. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte.
D'accord, je comprends. Je me suis posé la question aussi, on parle de cuisine durable, aliments durables, et l'alimentation, on l'utilise aussi pour nous, aussi pour le plaisir, mais aussi pour un côté physiologique. Et est-ce que justement ces aliments durables peuvent nous permettre de vivre plus longtemps ?
Alors, je dirais pas qu'il y a des aliments qui nous permettent vraiment de vivre plus longtemps. Il y a une grosse tendance, comme tu as pu le dire aussi, sur tout ce qui est complément alimentaire, super aliments pour antioxydants, etc. Je dirais que, d'une manière générale, il s'agit d'avoir une alimentation équilibrée, variée avec protéines, glucides, lipides et des bons ratios. Et faire attention à la provenance des ingrédients, utiliser le moins de produits transformés possible, c'est que mieux. Mais je pense pas que si on n'a pas de pathologie ou de besoins spécifiques, si on n'est pas enceinte ou qu'on fait pas beaucoup de sport, il n'y a pas pour moi vraiment d'aliments plus durables qu'un autre ou de super aliments révolutionnaires comme on pourrait nous vendre.
Ok, dommage, c'était tenté. La cuisine durable pour toi, tu l'as dit, t'es plus dans la pâtisserie. C'est aussi un projet entrepreneurial. Comment c'est venu cette idée et présente-la nous.
Alors, j'ai passé un CAP pâtisserie en même temps que ma licence de biologie. Et ensuite, le master de nutrition, c'était un peu la continuité. Tous les étés, je travaillais en pâtisserie pour, au lieu de travailler en job d'été n'importe où. J'aimais beaucoup, mais à chaque fois, je me posais beaucoup de questions et ça ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais renvoyer comme image. Donc, j'ai décidé de lancer, moi, mon projet, seulement d'abord pour l'été. Et ensuite, ça m'a vraiment plu. Et j'ai fait un stage chez Ferrandi, une grande école de pâtisserie, sur d'abord tout ce qui est pâtisserie saine, meilleur apport nutritionnel, etc. Puis, avec moi, peut-être mes convictions un peu écologiques, j'ai élargi le sujet, ma curiosité, pour vraiment me consacrer à ça maintenant que je suis diplômée du master.
Et contrairement à d'autres métiers conventionnels dans la pâtisserie, tu l'as dit, ton point de blocage, c'était de renvoyer pas ce genre d'image. Toi, tu avais quoi en tête à ce moment-là? Vers quoi tu amenais à tendre?
En fait, quand j'ai fait mon stage sur la pâtisserie plus saine, je me suis rendu compte que c'était pas seulement faire de meilleurs gâteaux, mais qu'il y avait toute une dimension autour, que l'importance de la provenance des ingrédients comptait, que l'utilisation du plastique, comme on peut le faire pour mettre en boîte des gâteaux, par exemple, comptait aussi. Et petit à petit, j'ai vraiment poussé cette réflexion plus loin. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai développé un projet de pâtisserie sous forme de verrine, donc dans des bocaux en verre. Au moins, il n'y a pas de déchets plastiques. Il existe plein d'alternatives que j'ai creusées, donc les emballages biodégradables. Et c'est vraiment la dimension 360 de la pâtisserie durable que j'ai envie de développer, d'essayer d'éduquer les gens autour de ça.
Et pour toi, dans les différents stages, voire jobs d'été que tu as pu faire, dans le milieu, on ne faisait pas attention trop à l'approvisionnement ou à comment utiliser les aliments ou comment tu le sentais, toi?
Quelles étaient les problématiques un peu que j'ai pu voir? Le recyclage et l'utilisation d'énormes, enfin, une quantité de déchets assez importante. Le gaspillage et en fait je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait concilier donc rentabilité avec durabilité si on peut dire parce que les pâtissiers ont des conditions de travail et, des pressions au niveau des coûts des matières premières qui sont importants et donc si ça leur apporte pas un gain économique ils vont pas franchir le cap donc tout est un peu une question de compromis. Et je dirais que même au niveau de l'utilisation du four, des fois, je trouvais qu'on ne réfléchissait pas assez pour l'optimiser et cuire le plus de choses possible en même temps. Ça passe aussi par arrêter de faire plein de gâteaux pour pouvoir remettre le focus sur le salarié qui fasse moins d'heures et qui soit plus efficace. Et donc, ils font moins d'heures et ils pourront peut-être rester plus longtemps. C'est vraiment tout ça que je prends en compte.
Donc, c'est l'aspect global du travail et l'utilisation des matières premières.
Oui, on rejoint encore les trois piliers, comme j'ai pu dire, sur la durabilité, finalement.
Et tu as touché un point qui m'est venu en préparant cette interview. C'était l'équipement, notamment les poêles, les fours, comme tu as pu le dire. On le sait, ils ne sont pas très durables. Mais du coup, dans une cuisine durable, comment on fait? Ils consomment de l'énergie, ils ont un impact. Donc, est-ce que tu as des petits éco-gestes simples en cuisine pour permettre de réduire cette consommation?
Alors, c'est marrant que tu poses aussi la question parce que je reviens d'un stage de 2 semaines dans une pâtisserie où on a développé, par exemple, la cuisson au four solaire. Alors, c'est vraiment les débuts. On a pu faire, par exemple, une tarte tatin cuite à 100% au four solaire et je trouve ça hyper intéressant. Le concept, il est bien sûr émergent et on pourrait pas faire une pâtisserie, un magasin vraiment avec... que la cuisson solaire, mais ça en fait partie. Sinon, en termes d'équipement, je dirais que souvent, on utilise des anciennes poêles ou quoi, qui ont des revêtements en téflon ou anti-adhésif et qui s'abîment. Donc, en fait, tout ça, c'est des microplastiques, c'est des PFAS. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on entend beaucoup parler en ce moment. Donc, utiliser plutôt de l'inox ou de la fonte si on fait des grosses... De la cuisine plutôt. En tout cas, ces deux matériaux sont dépourvus de PFAS et ça évite donc qu'on ingère des microplastiques, qui ensuite des microplastiques dans l'environnement, mais aussi les PFAS c'est potentiellement cancérigène. Enfin, il y a plein d'études qui sont sorties là-dessus. Donc c'est vraiment tous ces ustensiles-là qu'il faudrait changer petit à petit. C'est pas parce qu'on écoute ça qu'il faut se dire vite, il faut que je jette toutes les poêles chez moi et que je les remplace. En fait, vraiment, ça vient petit à petit. Quand on a une poêle qui est abîmée, on va peut-être se dire cette fois, je vais racheter plutôt une poêle en inox qu'en téflon ou quoi, par exemple. Et ensuite, pour tout ce qui est ustensiles, souvent, on utilise les ustensiles pareils en plastique qu'on met dans notre poêle bien chaude. C'est génial. Plutôt utiliser du bois, dans ce cas-là. Et pour la maison, un truc un peu classique, c'est faire réchauffer son plat dans notre tube qui est en verre, qui est justement en plastique. Et là encore, toutes les particules de plastique peuvent se mélanger en fait avec notre nourriture et utiliser plutôt des tubes en verre. Ça, c'est vraiment le basique.
Ça marche. Donc, utiliser du verre, du bois, de l'inox ou de la fonte pour cuisiner durablement. Tu l'as parlé, le four solaire, ça marche comment ?
Le four solaire, c'est assez simple. Nous, celui qu'on avait, c'était en forme de tube. Il en existe plusieurs. C'est la marque Solar Brother qui fait ça. Et en fait, tout autour, il y a donc des miroirs autour de ce tube qui en... Je ne sais pas vraiment la matière, si c'est de l'inox ou quoi. Et il y a un tube qu'on peut tirer pour venir mettre toute notre nourriture à l'intérieur. Les miroirs reflètent en fait les rayons du soleil sur le tube. Et donc, on peut atteindre une température proche des 180 de ce qui nous a été dit. On a cuit notre tarte à tatin, par exemple, en 2 heures. Donc, 30 minutes pour les pommes et 1h30 ensuite avec la pâte dessus. Ça, on l'a mis vraiment dans un endroit où il n'y avait pas d'arbres autour pour que les rayons du soleil puissent être concentrés au maximum. Et c'est vraiment juste le soleil qui permet ça.
Et petite question, juste en aparté, la tarte tatin, elle est pareille qu'un four traditionnel ?
Elle est pareille, ouais, elle est franchement super bonne. On fait un caramel pas trop cuit qu'on vient couler sur nos pommes, comme il cuit ensuite encore 1h30. Et on avait fait une pâte sans gluten, en l'occurrence, et c'était vraiment super.
Ça marche.
Je sais qu'à Rennes, le soleil, des fois, c'est pas trop ça, mais ça peut quand même.
Ça pourrait arriver d'avoir des fours solaires plus tard. Changement de sujet, qu'est-ce que tu réponds aux Français qui trouvent que consommer durable, c'est trop cher ?
Moi, je dirais que faire mieux, c'est mieux que ne pas faire du tout. Et consommer durable, c'est pas plus cher si on ne change pas tout ce qui peut être changé en même temps. Comme j'ai dit, racheter une poêle de temps en temps, se mettre à acheter, par exemple, d'abord seulement nos légumes bio et aux producteurs locaux, faire des petits gestes petit à petit pour déjà réussir à consommer moins et mieux. C'est pas plus cher. J'ai fait aussi plein de calculs de coûts de revient de matières premières classique versus, par exemple, meilleur pour la santé et plus durable, on s'y retrouve. Même s'il y a certaines matières premières qui vont être plus chères, il y en a d'autres qui vont l'être moins. Et franchement, si on fait des petits compromis et qu'on fait des petites démarches par-ci par-là, ça ne revient pas plus cher. Ça prend peut-être plus de temps et plus d'énergie, mais ça ne revient pas plus cher.
Et notamment pour un étudiant qui souhaite consommer durable, quelles sont ces petites démarches, ces petits compromis que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent ?
Typiquement, tous les produits ultra transformés qu'on achète, les plats préparés, tout ça, ça peut vite avoir un coût. Tandis que acheter des fruits et légumes de saison, je ne demande pas à ce qu'on aille à la Biocoop ou au marché des petits producteurs si on n'a pas le temps. Mais cuisiner simple, ça coûte vraiment pas très cher. Quand c'est des légumes de saison, en général, plus il y a de volume, moins c'est cher également. Donc moi, je conseille de privilégier par exemple le batch cooking ou l'organisation un peu des repas qui évite de devoir acheter des choses au dernier moment et peut-être des choses qui vont justement être... moins durable, entre guillemets, que si on avait planifié et on avait anticipé. Pour moi, ça passe vraiment par l'anticipation et l'organisation. Et pour un étudiant, il a l'habitude de manger tout le temps des pâtes, mais consommer à côté je ne sais combien de bières ou autre, bah, il peut se dire si j'en consomme peut-être une de moins, voilà, je vais pouvoir acheter mes légumes. C'est aussi une question de compromis sur le coût de la vie globale. Je demande pas à arrêter de sortir dans les rues de la soif, mais quand même.
Et est-ce que selon toi, on peut manger durablement ou trouver ses aliments en supermarché?
Pour moi, oui. Alors, il existe une grande diversité de supermarchés. Chacun est, enfin, plus ou moins développe plus ou moins le rayon bio, etc. Mais de plus en plus, et même maintenant dans des supermarchés comme Lidl ou Aldi, on peut réussir à trouver des produits qui soient meilleurs, plus durables, avec des labels, avec du bio ou du non bio, mais qui restent moins chers que, par exemple, la Biocoop ou autre. Et acheter en quantité aussi, ça peut être une solution. J'ai, par exemple, je connais des personnes qui achètent les gros sacs de riz de 5 kilos ou quoi, donc en bio, et ensuite ils peuvent se les partager. Et là, le coût n'est vraiment pas plus cher qu'en grande surface. Donc oui, je pense que oui. Ce sera toujours mieux que d'acheter local, aux petits producteurs du coin, etc. Mais tout ne peut pas être parfait. Et moi, je pense que si justement les personnes ne font rien, c'est parce qu'elles culpabilisent et elles se disent que ça peut toujours être mieux, que oui, elles font ci, mais elles ne font pas ça. Mais c'est déjà, un grand pas que d'y faire attention, d'y prendre conscience et de changer petit à petit les habitudes. C'est énorme.
Oui, donc sans culpabiliser, on change de mentalité, on change de mode de vie vers la consommation plus durable. On le sait, l'accès au circuit court, donc directement avec le producteur ou les magasins de vrac, tu l'as nommé avec Biocoop notamment, il est inégal sur le territoire français. Selon toi, quelles mesures pourraient être mises en place pour rendre la cuisine durable accessible dans tous les quartiers? Ça peut être... voilà, si maintenant je te donne la baguette magique, tu es président, quelles mesures politiques tu pourrais mettre en place localement ou peut-être entrepreneuriales vis-à-vis avec ce que tu fais? Dis-moi tout.
Alors, déjà, je me demande, quand tu dis que l'accès est inégal, il est inégal par rapport aux moyens financiers, inégal par rapport aux emplacements ou inégal par rapport à la volonté des personnes. Il y a plusieurs inégalités qui peuvent venir. Moi, je pense que pour y remédier, bah, il faut prendre évidemment les trois en compte à différentes échelles, mais je dirais que éduquer les gens, c'est le meilleur moyen de leur faire prendre conscience qu'en fait ils font ça pour eux et pourquoi ils le font pour leurs enfants ou voilà. Donc peut-être éduquer dans les écoles à travers je sais pas si ça peut être des associations, ça peut être moi j'ai pour projet de développer des ateliers justement de pâtisserie plus durable, donc faire des ateliers avec des jeunes, des moins jeunes, parce qu'il y a aussi les parents qui ne sont pas forcément toujours au courant. Et que je pense que le fait d'éduquer, ça peut aussi diminuer les écarts entre les personnes qui vont avoir fait, par exemple, peut-être plus d'études et donc avoir plus ces valeurs ancrées en eux que ceux qui ont travaillé directement. Ensuite, concernant les moyens et... Les emplacements, comme on a dit, on peut réussir à trouver, à consommer mieux et plus durable dans les supermarchés. Donc, le vrac ou le bio n'est pas forcément indispensable. Et je trouve aussi que de plus en plus, les coopératives se répandent un peu partout en France. Donc, peut-être que c'est une question de temps, je ne sais pas. Et concernant les moyens, après... est-ce que avec des associations comme je sais pas les Restos du Cœur ou des assos qui touchent vraiment des personnes défavorisées, on pourrait pas mettre en place justement encore des ateliers, des journées où on essaye de leur montrer que on n'est pas obligé d'acheter que ultra transformé, que peut-être que tout ça changerait. Je n'ai pas de baguette magique, mais j'aimerais bien.
Ça marche. maintenant, j'ai pensé à la cuisine durable, mais c'est aussi de la gestion des déchets quand on cuisine. Selon toi, si on prend un couple à Paris centre en appartement, comment ils peuvent gérer au mieux notamment le compostage de leurs biodéchets ou faire du entre guillemets zéro déchet, qui est une démarche de plus en plus grandissant. Quelles solutions existent pour eux?
Alors, je sais pas si tu sais, si même les personnes qui écouteront le savent, mais depuis normalement le 1er janvier 2024, les collectivités sont obligées de mettre à disposition des locataires un endroit pour recycler les biodéchets, ce qui n'est pas du tout en vigueur partout en France encore. Mais c'est déjà une étape, on va dire. Et hormis le compost et le biocompost qui peut exister des fois dans les grandes villes, je sais qu'à Lyon, par exemple, il y a des grands composts qui sont partout. Donc, on peut très bien descendre de son immeuble et normalement, toutes les résidences mettent à disposition des locataires un petit bac vert pour faire le compost. Alors oui, ça sent pas très bon, c'est pas toujours agréable à descendre. Mais bon, faut aussi... je pense des fois revenir aux bases de la vie, quoi. Juste, c'est normal, c'est la nature qui travaille et ça ne coûte pas beaucoup de temps. Sinon, je sais qu'il existe par exemple des lombricomposteurs. Les lombricomposteurs, c'est plusieurs étages en fait de terre avec donc des vers de terre où donc l'étage du haut on y met nos déchets. Je vois que ça te fait vraiment envie. On y met nos déchets, les vers en fait ils vont venir dégrader nos épluchures, etc. Et en dessous on peut récupérer ensuite le compost, ça va faire un fertilisant par exemple pour les sols. Donc si on n'a pas de jardin, je pense qu'on peut le laisser dans la copro pour des personnes on peut le jeter. Je sais pas vraiment quelles alternatives existent, mais je suis sûre qu'il y en existe. Et c'est un truc plutôt esthétique. Enfin, ceux que je connais, en tout cas, ça fait un peu comme des pots de fleurs en matière terre cuite, poterie. Voilà, c'est pour un foyer de 1 à 6 personnes, je crois que c'est OK. Après, on peut toujours en rajouter. Et sinon, il existe aussi les bokashi. Donc cette fois, c'est un moyen de composter par fermentation, toujours à la maison. Parce que je n'ai pas précisé, mais le lombricomposteur, on peut très bien l'avoir dans... Peut-être pas son salon, si on n'a pas envie, mais sur sa terrasse. Ou... Je suis sûre que le salon, c'est OK. Et donc, le bokashi, ça marche plutôt par fermentation. C'est du son d'avoine, il me semble, qui est mélangé avec des micro-organismes. Et on vient donc mettre nos biodéchets, même viande et poisson, c'est possible. On met une petite couche de notre bokashi. Et ensuite, ça va d'abord fermenter. Et ensuite, on peut l'utiliser en tant que pareil fertilisant. Il existe des alternatives.
Ok, donc beaucoup d'alternatives. Les personnes maintenant parisiennes qui nous écoutent savent qu'ils n'ont plus le choix de composter. Tu l'as parlé en début, dans les trois piliers de la durabilité, il y a des labels, des allégations écologiques. Et on le sait, ça se multiplie dans nos rayons de produits en supermarché notamment ou autre. Comment le consommateur, on peut faire la démarche vraiment, enfin la différence entre cette démarche sincère et ce qu'on appelle le greenwashing, donc vraiment juste apposer la notion de label, mais sans vraiment que la marque fasse ce qu'il faut pour.
Alors, tu mets le doigt sur un sujet qui est complexe parce que, à part vraiment se renseigner de son côté, aller voir peut-être le site de la marque et les actions concrètes qu'elle met en place si elle revendique avoir tel ou tel label. Il existe, pour l'instant, pas à ma connaissance en tout cas, pas de moyen vraiment de vérifier. Après, il faut quand même savoir que les labels, ils ont tous leurs exigences et que même si le consommateur peut se retrouver perdu face à tout ça, je pense que avoir un label, ça, c'est toujours signe de qualité. Après, il y a aussi, à l'inverse, les producteurs ou autres qui marquent, qui pourraient avoir des labels, mais ça a un coût. Et c'est aussi rentrer peut-être dans tout un lobbying de payer des labels pour avoir de la reconnaissance. Et certains ne veulent pas payer pour ça. Donc, il y a un peu des deux. Je pense qu'il faut vraiment être curieux. Si une marque aussi fait seulement un produit, par exemple, qui est mieux, je pense que ça veut forcément dire que ces produits à côté sont moins bien, pas moins bien, mais moins durables ou voilà, ne respectent pas ce label. Et donc, que la démarche globale de l'entreprise n'est peut-être pas si bien que ça. Je pense qu'être curieux, de toute façon, c'est le meilleur moyen de savoir.
Donc, aller se renseigner, voir sur place les démarches.
Même sur Internet, je sais qu'il existe des personnes qui font des vidéos YouTube ou quoi, pour savoir si telle marque ou telle marque est vraiment clean ou autre. Alors après, toujours apprendre avec des pincettes et croiser les sources, mais ça peut être une aide.
Ça marche. Un autre débat qu'on peut se poser, c'est justement au rayon, pareil, au supermarché. Est-ce qu'il faut toujours privilégier le local ? Donc, ça peut être aussi des fruits ou légumes qui sont chauffés sous serre, ou bio, enfin, ou respectueux de l'environnement, mais qui viennent, comme tu l'as dit, notamment la mangue, la banane, qui viennent de très loin. Qu'est-ce que t'en penses ?
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier entre les deux ? Comme on a dit, je l'ai dit, c'était plutôt une question de compromis. Je pense que si on peut concilier les deux, alors avec le local en premier, c'est mieux. Mais personnellement, je vois pas l'intérêt, si on a vraiment, vraiment envie de manger, par exemple, une mangue, de se frustrer et de se dire « je la mange pas », pour potentiellement ensuite aller en acheter finalement le double la prochaine fois, parce qu'on aura vraiment trop envie de cette mangue. Ça crée des frustrations. Je pense que le mieux, c'est privilégier, oui, le local, parce que c'est toujours mieux aussi de faire travailler l'économie circulaire, qu'il y a moins d'intermédiaires, que je pense qu'on sait mieux où va notre argent. Mais je dirais qu'il vaut mieux acheter une mangue de temps en temps et bio, plutôt que de l'acheter souvent et qu'elle soit non bio, qu'elle vienne par avion, bateau, c'est pareil, voilà.
Ça marche. Pour finir, la cuisine durable, c'est un idéal ambitieux, avec tout ce que tu as pu nous décrire. Quel serait, selon toi, le premier pas ou le changement le plus impactant que tout auditeur qui nous écoute devrait faire dès aujourd'hui pour s'engager sur cette voie ?
Je dirais que les auditeurs qui ont écouté le podcast, parmi toutes les alternatives et les solutions qu'on a pu évoquer, la meilleure est celle qui est pour moi la plus simple à mettre en place pour eux. Dans une société où les gens n'ont pas le temps, où il faut toujours aller plus vite, etc., je pense qu'il faut commencer par les choses qui sont les moins contraignantes, pour ensuite vraiment aller toucher et faire des concessions sur les points plus spécifique et peut-être plus compliqué à changer. Mais donc, pour faire un petit rappel, par exemple, ça peut passer par diminuer, sa consommation de viande et favoriser de la viande locale pour limiter son impact carbone, consommer de saison, fruits et légumes de saison, des produits bruts, puisque ça nécessite moins de transformation, donc il y a un impact d'énergie, par exemple, qui est moindre derrière. Et si on peut dire une chose concernant les emballages, etc., ce serait arrêter de faire chauffer ces tupers en plastique et privilégier le verre.
Et du coup, message de fin pour toi, Emma, as-tu un seul message à faire passer sur la cuisine durable ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ensuite pour la suite ?
Je pense que le terme durabilité, il est tendance ou il est périn pour plus tard, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un terme transitoire. Et j'espère qu'à terme, tout ce qu'on a pu évoquer là, en fait, ça deviendra la norme. Et donc, on n'aura plus besoin d'en parler comme on fait actuellement. Et c'est pour ça que ben, pour la suite, justement, j'ai envie de développer des ateliers donc, pour répandre une forme de pâtisserie plus durable. Tu peux me souhaiter que mes ateliers marcheront et avec plaisir pour que tu y participes d'ailleurs.
Eh ben, je te le souhaite et avec plaisir également de participer à ce genre d'action. Merci beaucoup Emma.
Merci à toi.
Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Place aux Jeunes. À plus.